1, 2, 3, climat.
L'émission 100% solution.
Comprendre, dialoguer, bifurquer.
Sobriété et efficacité.
1, 2, 3, climat.
Sur Radio Barthas 107 FM.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, exceptionnellement, on est un 29 février. C'est pour ça qu'on a décalé l'émission d'une semaine. Normalement, c'est le troisième jeudi du mois. Là, on est le quatrième. On va essayer de respecter les horaires, les jours, normalement. On va commencer par les absents, puisque aujourd'hui, on n'aura pas Thomas, qui fait autre chose et qui est bien occupé. Mais sinon, autour de la table, on a d'abord Claire.
Bonjour.
Pierre.
Bonjour.
Philippe.
Eh bien, bonjour.
Ensuite, Manu.
Salut à tous.
Et Ben à la technique.
Ouais. Salut.
Qui met du temps à parler, mais ça va s'arranger.
Ça arrive.
Ça va venir. Il n'avait pas prévu.
Il était concentré sur...
Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'était d'une manière générique, habiter autrement et des expériences diverses et variées sur une façon d'habiter différente du logement individuel qui est le classique de ces 50 dernières années, un peu poussé par tout le monde. Et les invités présents vivent dans un projet qui a une dizaine d'années maintenant.
C'est ça.
D'une maison partagée à deux familles.
Oui, c'est ça, une copropriété à deux familles. Ouais.
C'était ça. Donc, après les chroniques, on discutera avec eux et un enregistrement de leurs enfants.
Impatient de découvrir ça.
Qui ne pouvaient pas être là ce soir parce qu'il y a le lycée, même si elles voulaient vraiment venir, mais, et puis elles ont l'habitude de la radio, mais elles ne peuvent pas, mais elles doivent écouter.
Oui.
Maintenant, nous allons passer aux chroniques Climat Constat. Climat Constat.
Eh bien, comme le thème, c'est « Habiter autrement », je vais, moi, commencer par vous parler de la maison individuelle. C'est tout à fait dans le thème. Bon, voilà, un petit constat sur la maison individuelle qui, quand même, reste le rêve de 80% des Français, d'après une consultation assez récente, là, en 2021, organisée par le gouvernement, par le ministère de la Transition énergétique. Pour l'instant, la moitié des logements sont des maisons individuelles. Entre 2019 et 2021, la construction des maisons individuelles a augmenté de 16% par rapport à l'année précédente. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se tasse. C'est vraiment plébiscité par nos concitoyens. Alors là, bon, c'est vrai que ces 10 derniers mois, ça s'est un peu calmé, mais bon, pas pour des questions d'envie, mais parce que y a des questions de pouvoir d'achat, de hausse des taux d'intérêt et tout ça. C'est vrai que, voilà, on va se dire que c'est un peu conjoncturel. Tous les ans, ce sont entre 20 000 et 30 000 hectares d'espaces naturels ou agricoles qui sont artificialisés. Alors artificialisés, ça veut dire que quand on construit une maison, même avec du terrain autour, le terrain autour est considéré comme artificiel puisque c'est plus un espace naturel, il n'y a plus la biodiversité qu'on peut trouver dans les espaces naturels et tout ça. Donc c'est quand même pas mal, hein. Alors, sur ces 20 à 30 000 hectares, 68% sont à cause de construction de maisons et le reste, c'est tout ce qui accompagne la construction des maisons, la construction des zones commerciales, les routes, toute la voirie et tout ça. Alors, c'est vrai qu'en France, on a quand même une culture de l'accession à la propriété, à la maison individuelle, hein, donc c'est pour ça que beaucoup de gens aiment ça. Tout ça, c'est encouragé aussi par un secteur du bâtiment avec des grosses boîtes de promotion qui construisent des maisons à pas cher. Puisque quand on sait que la construction neuve est bien moins chère que la rénovation d'une maison. Donc voilà, tout ça, ça participe à un étalement urbain. Puisque en plus, plus on s'éloigne des villes, moins c'est cher de construire. Les terrains sont moins chers, etc. Mais plus il y a de déplacements, enfin voilà. Alors, on pourrait penser que tout ça, c'est parce qu'on est de plus en plus nombreux à habiter en France sur cette planète. C'est vrai. Mais en fait, la construction de maisons neuves, individuelles, progresse ces dernières années 4 fois plus vite que la population. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une tendance forte. Hein. Ça, c'est des chiffres de l'Office français de la biodiversité qui fait des études là-dessus. Alors, tout ça pour dire que, en fait, ça progresse beaucoup plus vite que la population. On s'éloigne des villes, donc les lacs pavillonnaires s'étendent. Mais il faut prendre en compte que quand même, il y a beaucoup de... C'est moins cher de faire du neuf que de rénover. Sur notre parc immobilier, il y a quand même 8% de logements vacants. Au total, hein, au niveau de la France. Ça, c'est l'INSEE qui donne ces chiffres. Il y a 10% de résidences secondaires sur l'ensemble du territoire. Alors évidemment, hein, c'est pas réparti également sur tous les départements. Bon voilà, donc ces chiffres, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi ? Est-ce qu'on peut continuer comme ça ? Parce que on prend sur des terres agricoles, ça représente quand même une perte de biodiversité. Cette absence d'espace naturel, ça participe aussi au réchauffement climatique, puisque même les petits terrains, les petits jardins autour des maisons absorbent quand même beaucoup moins de CO2. Ça crée des îlots de chaleur, le goudron, etc. Plus, quand on habite loin des centres-villes, mais on va dire des zones où on peut aller faire ses courses, c'est souvent des zones où il n'y a pas de transport en commun, où on prend sa voiture. Ça crée aussi de la pollution lumineuse. Et puis, pour finir, ça augmente les risques d'inondation. Parce que forcément, l'eau sur le béton ou le goudron, elle s'infiltre pas. Donc voilà. Donc que faire ? Bon, ce soir, on est là pour en parler un peu. Mais voilà, je vous ai dressé un tableau un peu noir. Mais maintenant, on va passer sur des choses plus positives.
Il y a des solutions, on
espère. Il y a des solutions, exactement.
C'est le mitage de l'espace qui était la condition de base. Moi, je me suis rendu compte, pour avoir eu mes parents, des héritiers de leurs parents quand ils ont décédé, en fait, en grande banlieue parisienne, les gens cherchent la maison individuelle, mais pas de jardin.
Oui,
ils veulent pas d'espace vert seulement pour poser la chaise longue et le barbecue, mais il y a 2 mètres autour du bâtiment, c'est tout. Et tout le reste, ils le construisent en loti. Et chacun est dans son propre loti, dans sa propre maison, enfermé, sans vivre avec ses voisins.
Un peu bunkerisé aussi, parce qu'on ne veut pas avoir trop d'ennuis avec les voisins.
Voilà. Et puis, il ne faut pas trop les voir. Et on est bien dans notre voiture.
Oui.
C'est un essai, hein.
Bonjour, Madame la Ministre.
Bonjour.
Avez-vous menti ?
Non, je n'ai pas menti. C'est la réalité qui me donne tort.
Les yeux dans les yeux ?
Les yeux dans les yeux, monsieur.
Notre maison brûle.
Et maintenant, une petite chronique de Manu.
Alors, pour faire le lien avec ce que vient de nous dire Philippe, hein, c'est que c'est vrai que la question des sols, souvent on oublie à quel point les sols sont en capacité d'absorber le CO2, et à l'échelle de la planète, c'est quand même 2500 milliards de tonnes de CO2 qui sont stockées dans les sols. Ça veut dire pratiquement 3 fois plus que dans l'atmosphère. Oh, ça vaut le coup quand même de s'en occuper un petit peu.
Oui.
Alors moi, je vais essayer d'aborder la question sous un autre angle, déjà pour dire que, c'est évident, hein, le logement, c'est un petit peu notre coin du monde. Et d'une certaine manière, il reflète la manière dont on vit ce monde en terrien. Et l'anthropologue nous dirait que habiter, ce n'est pas seulement se trouver dans un espace, c'est apprendre à partager l'espace. Autrement dit, c'est apprendre à vivre avec les autres, qu'ils soient humains ou non humains. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut dépasser le mythe du pavillonnaire pour voir comment on arrive à se projeter dans autre chose. Et d'ailleurs, depuis une dizaine d'années, on constate qu'il y a l'émergence de beaucoup de projets collectifs qui sont portés par des citoyens, mais qui sont aussi portés, et d'ailleurs de plus en plus, par des institutions. Et ces projets prennent plusieurs formes, hein, éco-hameaux, éco-quartier, habitat participatif, habitat inclusif, habitat intergénérationnel, que sais-je. Et le fait que ce soit porté par des institutions de plus en plus souvent, ben, ça nous dit qu'on n'est pas dans le même mouvement que dans les années 70, quand la Lozère a vu arriver les néo-ruraux pour la première fois. Et donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, par exemple, on a des grosses métropoles, par exemple Strasbourg ou Montpellier, qui travaillent dans ce sens-là, mais aussi des petites communes, des villages. On a par exemple à Espagna, quand il y a des projets qui émergent. Et puis on a aussi le parc des Cévennes qui, à un moment donné, a porté un projet, et même le diocèse de Lozère qui porte un gros projet. Je vais pouvoir en parler. Alors, l'intérêt de l'habitat participatif, c'est qu'il permet aux futurs habitants, ça on pourra en parler avec nos invités, c'est qu'il permet donc aux habitants d'une résidence de participer à la définition, à la conception, à la gestion de leur lieu de vie, qui est constitué de logements privatifs, d'une part, mais pas que, également des espaces partagés et même parfois des locaux professionnels. Et comme chaque projet est adapté à son contexte et au collectif qui le porte, ça donne une énorme diversité de réalisations. Et sur notre territoire, pas très loin, je vais vous donner quelques exemples qui permettent de voir à quel point ça peut être varié. Alors, je vais commencer par Espagnac, parce que finalement, c'est là où j'habite et c'est là où habitent nos habités.
Allons-y, commençons.
Le centre du monde. Le plus ensoleillé des Lozères. Ouais.
Et donc, le village de 1000 habitants... vient de réfléchir, disons, continue de réfléchir à différentes formes d'habitat partagé, notamment avec un projet d'habitat inclusif qui va s'adresser à des personnes âgées et à des personnes en situation de handicap, et également un projet d'éco-quartier, avec, il me semble, un appel à candidature qui est en cours pour identifier des personnes qui seraient intéressées pour y vivre. Pas très loin non plus, à Bar des Cévennes, la mairie porte un projet d'éco-hameau, et ça j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, qui sera constitué d'habitats légers et réversibles, donc on n'est pas sur du permanent, et des habitats qui seront autonomes en eau, quand même on est sur le COS, et autonomes en énergie, sur un terrain de 3 hectares et demi, qui pourra accueillir une dizaine de foyers, un bâtiment commun et un tiers-lieu dans lequel on pourra développer des activités économiques. Alors, espérons que sur la commune de Bar-des-Cévennes, le projet aboutisse, parce qu'apparemment, il y avait un autre qui était dans les tuyaux avec le parc des Cévennes, avec la ferme du Bramadou. Mais j'ai appris tout à l'heure que c'est un projet qui avait un petit peu du plomb dans l'aile.
Ça a du mal à aboutir pour des raisons diverses et budgétaires.
Bon, maintenant, on a Amende, notre capitale. Alors oui. Là, il y a un projet assez grandiose. Enfin, franchement,
évidemment, c'est pas comparé avec Espagnac. Attends, c'est Amende quand même.
Ouais, chacun le fait à sa dimension. Hein. Mais alors là, il faut reconnaître aussi que le propriétaire, c'est le diocèse, avec l'ancien grand séminaire. Et c'est un projet de réhabilitation globale de l'ancien du bâtiment, dans lequel on va trouver, avec un partenariat avec Habitat et Humanisme, une trentaine de logements qui seront intergénérationnels, qui seront donc à destination de personnes âgées en convalescence, d'étudiants et de jeunes travailleurs. La chapelle va être reconvertie en espace culturel. On pourra avoir des concerts, des expos. Et en plus de ça, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que l'Institut de formation des infirmiers à Mende va profiter de d'une extension dans ce bâtiment, ce qui fait que les élèves infirmiers eux-mêmes pourront être logés là, et du coup le lien avec les résidents plus âgés va se faire naturellement avec un transfert de compétences, un vrai échange entre générations. Bref, tout ça pour dire que quand même ça bouge pas mal, et d'ailleurs la région Occitanie s'est dotée très récemment d'un plan habitat durable qui comporte un appel à projet d'innovation sociale habitat partagé et participatif. Donc je vous conseille, si ça vous intéresse, de suivre l'actualité de près pour pouvoir éventuellement postuler. Maintenant, si vous cherchez à intégrer un projet existant, bon, je suis tombé sur une base de données en ligne sur internet, habitatparticipatif-france.fr, Et on y voit par exemple que le moulin de la Ruche à Langogne peut encore accueillir 2 ménages dans un habitat participatif intergénérationnel. Maintenant, si vous cherchez plutôt d'habiter dans un éco-hameau, bah, apparemment il y a encore de la place dans celui du Collet d'Aise.
Et il y a... Ouais, il y a un autre projet sur le Cosmégeant, mais qui a du mal à aboutir, j'ai l'impression.
Sur Hurle-la-Parade ?
Ouais, sur Hurle-la-Parade, où là, il y a déjà les gens, mais pour faire un éco-quartier ou un habitat collectif.
Un éco-hameau autonome.
Voilà, ouais, moi, c'est pas très clair non plus. Moi, j'ai que des échanges avec eux sur le climatique, d'un point de vue professionnel, parce qu'ils me posent sur la pluviométrie, en fait. Voir s'il pleut assez pour être autonome en eau sur leur... Oui. Le truc, c'est que la commune d'Hurle-la-Parade, a priori, leur propose un terrain qui n'est pas génial, tout de ce qu'on m'a dit. Mais c'est aussi un projet qui est en cours. On va passer aux invités. Ça arrive.
Bon, ça bouge !
Interview climat.
1, 2, 3, climat.
Donc, on revient avec plus précisément Claire et Pierre, un peu sur... Donc, vous habitez Ispagnac, et c'était un peu l'idée de votre projet, d'où... Comment ça vous est venu l'idée de construire ce que vous avez réalisé, qu'on va aborder au fur et à mesure ?
En fait, on est arrivé en 2007, ici en Lozère, et on a trouvé un logement locatif à louer, sur la place de l'église à Ispagnac, un logement social, parce qu'on arrivait d'Haïti où on avait passé 2 ans en volontariat. Et on s'est tout de suite rendu compte que la question du logement ici en Lozère était pas simple pour les gens qui habitaient à l'année. On arrivait pour le boulot avec notre première fille qui avait quelques mois. Et puis, un an et demi après, on a accueilli notre deuxième fille. Et Pierre a trouvé du boulot à Marvejols. Donc on habitait à Ispagnac. Moi, je bossais à Florac. Pierre à Marvejols. Donc on a commencé à se dire, Ispagnac, c'est vraiment l'endroit idéal pour essayer de s'installer au niveau en termes de situation. Et puis vraiment, on avait été enchantés par l'accueil dans le village en arrivant comme ça ici en Lozère. Donc on commençait au début à chercher à acheter, on va dire. On n'était pas branchés à la base sur construire. On regardait plutôt dans le village des choses à rénover.
Et comment vous avez atterri à Ispagnac, monsieur d'Haïti ? Après, on a exactement la même expérience avec Véro, moi.
Où ben
on
en fait, atterri à Ispagnac, moi, j'étais mutée ici à Florac, à Supagro à l'époque, l'Institut Agro. Et c'est quand on est arrivé pour le boulot, c'est une future collègue qui m'a dit « Moi, j'habite à Ispagnac, c'est un peu plus ensoleillé. » Puis en fait, au niveau géographique, c'est tourné. Moi, j'ai de la famille plus dans le Cantal ou vers Toulouse. Donc, c'était un peu moins loin, on va dire.
Les axes routiers. Alors là, Claire, tu chipotes.
Pour aller dans le Cantal. Mais finalement, ça a fait la différence. Parce que quand Pierre a trouvé du boulot à Marvejols, on s'est dit que franchement, Ispagnac, c'était la limite. Après, ça fait de suite un peu plus loin.
Quand on était venu aussi pour un entretien d'embauche, c'est à Ispagnac qu'on avait été campé.
Ouais.
Et c'est vrai que du coup, on avait déjà déambulé dans le cœur du village et on avait eu des premières bonnes sensations. Ces jardins, on a toutes les deux des études en agronomie. Je sais pas, il y avait un côté, on sentait que c'était un endroit où on cultive, où il y a un peu plus d'espace, peut-être aussi effectivement au niveau climatique, que le brouillard. Il y est aussi, mais peut-être il s'échappe plus vite sur le Cos qu'ailleurs.
Il s'échappe un peu
peut-être,
plus vite.
Peut-être, oui. Il est moins coincé.
C'est assez marrant parce que nous, on a eu avec Véro exactement la même façon de... Parce que j'ai fait l'entretien et j'ai été pris. Et quand on est venu pour essayer de trouver un logement, on est allé se loger temporairement dans un hôtel à Ispagnac. On n'est pas venu à Florac. Mm-hmm. Finalement, il n'y avait rien. Ouais. Ils étaient tous fermés. Le seul qu'on a trouvé, il était sur Ispagnac. Et on y est resté.
Ouais, oui.
Et du coup, vous ne cherchiez pas, forcément à construire.
On visitait plutôt des maisons de village. On avait même fait faire des devis pour des rénovations. Et là, on avait un peu déchanté. Après, on avait peut-être aussi l'influence des parents à l'époque qui nous avaient dit « Non, mais dans quoi vous voulez vous lancer là avec, avec les filles toutes petites ?» Il y avait des gros travaux. Et puis c'était cher
des chantiers,
à l'achat.
Voilà, par rapport au budget ou par rapport à la maison elle-même?
Plutôt au budget, ouais. Et à l'état. Parce que les maisons de village, ouais. Si tu as la maison d'à côté qui n'est pas à vendre et qui s'écroule et qui est en mauvais état, le charpentier nous avait dit, voilà, si vous avez il faudrait avoir les deux, quoi. Parce que sinon, bref, voilà, ça n'aboutissait pas. Et on avait en face de nous des voisines sur la place de l'église, Hélène et Armel, qu'on connaissait puisque Hélène est une de mes collègues et qui était un peu dans la même situation que nous, à chercher à acheter sur Hispaniac, parce que pareil, Hélène travaillait sur Florac, Armel sur Mende, et puis coup de cœur pour le village. Et de temps en temps, à la cantine, on parlait, on disait « Ah, t'as visité ça ? Ah ben oui, oh, ben, la semaine prochaine, on va à Saint-Étienne-du-Val-d'O parce que, éventuellement, ça peut le faire aussi. » Bref, on discutait de nos déconvenues par rapport aux agences immobilières. Et puis, on en était venu à parler, on était abonnés à la maison écologique. Hélène Armel et nous aussi. Donc, on avait un petit peu lu des choses sur des éco-quartiers, éco-hameaux. On avait entendu parler d'Habitat Durable en Cévennes, l'association à l'époque.
Qui existe encore
Ouais.
Qui existe encore.
Et qui était peut-être plus actif. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, on avait suivi un peu plus les actualités, l'idée qu'il y avait à un moment donné peut-être un travail pour trouver un terrain pour un éco-hameau. Donc, on s'était renseigné. Et puis une fois, c'était un peu sous forme de boutade, on avait dit avec Hélène, mais en fait, pourquoi on le fait pas nous, quoi, le éco-hameau, même si on n'est pas nombreux, quoi. Et puis on l'avait un peu dit en rigolant, et puis quelques temps plus tard, Hélène m'avait dit, mais en fait, on y a réfléchi avec Armel, et on se dit que c'est peut-être pas si bête, quoi, vu qu'on trouve pas de trucs à acheter, pourquoi pas trouver un terrain. Qui soit assez grand pour deux familles, mais parce qu'on et réfléchir à construire un peu autrement et justement pouvoir s'installer sur Hispaniac parce que les terrains étaient quand même rares
et hors de prix.
Ouais. Et finalement, trop grand entre guillemets pour nous parce qu'on avait aussi peut-être la vision de l'artificialisation des sols et pas trop cette envie-là à la base de construire la maison avec le terrain autour, quoi. C'était pas trop
Et le grand garage.
Alors, je l'ai pas dit, mais effectivement, sur la maison individuelle, en fait, j'ai eu un chiffre là, la parcelle sur laquelle est posée la maison individuelle. J'étais étonné, mais la superficie, c'est 900 mètres carrés, en fait. Ce qui est énorme, ça veut dire que...
En moyenne, je pense.
C'est une moyenne nationale. Hein, donc, ça veut dire qu'il y a des maisons... il y a toujours beaucoup de terrain, quand même, quoi.
Sur le 9.
Oui.
Après, peut-être on le verra.
Sur le 9, oui.
Je ne sais pas si on détaillera les modes constructifs, mais on est dans la pente. Et c'est vrai que par rapport à une surface plate qu'on pourrait exploiter en totalité, dans notre projet, il y en a une bonne partie qui est dédiée à l'enrochement, à l'accès, des aménagements obligatoires du fait de solutionner les contraintes de pente.
Ouais, c'est les terrains en haut, mais qui étaient un lotissement, en fait. C'était... À la base, c'était
alors
pas
plus haut que chez nous. J'ai appris récemment qu'il y avait un projet d'un lotissement au-dessus,
encore plus dans la pente, quoi.
Voilà, à l'endroit où il y a actuellement finalement les vignes, là où il y a les vignes sur le coteau qu'on appelle la Lèche à Hispaniac, il y a eu des esquisses pour imaginer y faire un lotissement. Et à un moment de bascule avec l'arrivée du projet de relance de la viticulture. C'est ce projet-là qui l'a emporté. Sinon, on pourrait imaginer qu'aujourd'hui, on ait peut-être une quinzaine de pavillons sur le coteau.
Qui remonte jusqu'en haut.
À la place des vignes.
Et du coup, ça pense... grande parcelle, trop chère, donc à deux, ça devrait faire.
Ouais, on a commencé à chercher des parcelles. Donc, on en a visité une première. Je ne sais plus la surface. Qui était assez compliqué en termes de construction. Et donc, on s'est rapproché d'une architecte, Nathalie Crépin, qui nous a aidé à réfléchir à l'agencement de deux maisons. Parce que l'idée, c'était qu'on ait quand même chacun nos maisons, une partie espaces, nos espaces privatifs. Et on a décidé, ça c'était dès le début, de mettre en commun une chambre d'amis. Parce parce qu'on avait nos familles qui ne sont pas dans le coin, qui sont même loin, voire très loin, en Alsace, dans les Vosges, pour certains. Et donc, on voulait pouvoir accueillir nos parents pour des périodes, des fois 15 jours, 3 semaines, avec, dans des bonnes conditions, quoi, avec longue. Une salle de bain, un truc indépendant. Et ça, on s'est dit, plutôt que d'avoir chacun notre chambre d'amis, on peut le mutualiser. Donc, on avait réfléchi à cet espace-là et aussi nos buanderies, de les regrouper. Alors, le premier notaire qu'on avait vu, j'y avais été toute seule pour prendre des rendez-vous, pour prendre des renseignements juridiques, et il avait rigolé. Il m'avait dit, mais madame, quand même, vous n'allez pas partager une machine à laver. C'était inconcevable pour lui. Et bon, bref, j'avais essayé de lui expliquer que ce n'était pas forcément la machine à laver qu'on voulait partager, mais au moins l'espace
où il y a deux machines. Oui.
Voilà, on peut chacun avoir deux machines, et c'est ce qu'on a fait, quoi. Bref, c'est la petite anecdote, mais voilà, on savait déjà qu'on voulait un petit peu partager cet espace buanderie, atelier et chambre d'amis. Et donc, le premier projet était trop compliqué. C'était les logements individuels étaient l'un au-dessus de l'autre, enfin au niveau phonique. Ça, mais c'est pas pour ça qu'on a arrêté ce projet. C'est parce qu'en fait, l'offre qu'on a faite au propriétaire qui vendait son terrain a été refusée. Donc, on était un peu déçus, en fait. Mais après, oui. On s'est dit, finalement, ça aurait été compliqué. Et suite à ça, c'est...
Et puis, le terrain a profité à un autre projet.
Oui, voilà. Oui. Et après, c'est un des élus à Hispaniac qui nous avait reçus.
Oui, un adjoint au maire à l'époque. Ouais. Et qui était au courant d'une parcelle qui venait de se faire désenclaver. Il y avait une entente avec le propriétaire de la parcelle dessous. Et ils avaient échangé des surfaces permettant à une parcelle qui était enclavée de devenir accessible depuis la route. Et il avait dû le proposer à d'autres personnes. C'était un peu grand, 1200 mètres carrés. Et du coup, quand on est venu le solliciter, il a tout de suite pensé à ce terrain. Il nous a donné le contact du propriétaire.
Et voilà. Et là c'était la parcelle. Ouais, c'est vrai que la situation de la parcelle et puis sa taille, c'est vrai que 1200 mètres carrés. Pour une famille tout seul, c'est beaucoup trop grand. Et là, il y avait la possibilité de... l'architecte, nous, on l'a vu de suite, quoi, qu'on pouvait faire les maisons, donc les maisons mitoyennes, mais au milieu, entre les deux maisons, un espace avec une chambre d'amis et chacun une cave ou un espace atelier et la buanderie en commun.
Qui relie les deux maisons.
Ouais, c'est ça.
Et le montage... juridique qui permet de faire ça.
Alors, suite au premier notaire qui rigolait, qui se moquait un peu, qui pensait qu'on allait faire, qu'on allait faire une espèce de communauté, voilà.
Ça donne bien la mentalité locale.
Ouais. On a cherché un autre notaire, et c'est à Marvejols qu'on a trouvé un notaire qui revenait s'installer, reprendre l'office notarial de son papa, mais qui avait fait sa première partie professionnelle en ville. Et en fait, quand on lui a posé la question, je crois qu'au début c'était par mail, il a dit « Ah, mais aucun problème, je connais ce montage. » En ville, en fait, c'est souvent des investisseurs privés qui se disent « on va acheter à plusieurs un immeuble, par exemple, et ensuite, on va attribuer des lots à différents propriétaires. » Donc, le montage juridique que font ces investisseurs, c'est une société civile d'attribution. Et pas une SCI. C'est ce qu'on a pu créer. C'est une société civile d'attribution. Donc, dans cette société, on avait chacun, comme on était quatre, on avait chacun mis un certain montant pour pouvoir acheter le terrain, déjà. Et c'était divisé en quatre, en fait. On était à égalité. Mais ça nous permettait d'éviter le côté indivision. Et ça, le notaire nous avait expliqué qu'en cas de problème, c'était quand même beaucoup plus facile à résoudre, puisque les choses étaient bien claires. On savait exactement ce qu'on avait apporté chacun. Et ensuite, cette société civile d'attribution, elle était vouée à être dissoute. À la fin de la construction, au moment où on attribue, c'est son nom, on attribue les lots aux propriétaires. Et donc là, on est devenu, à l'issue du chantier, on est devenu copropriétaire, exactement comme n'importe quelle personne qui a un appartement dans un immeuble et qui est propriétaire de son appartement et copropriétaire des parties communes en fonction de la surface, donc les escaliers, les caves, les parkings.
Un pourcentage.
Et donc là, nous, le pourcentage, c'est 0,25 chacun.
Et tu parlais de société civile d'attribution, donc pour éviter donc, les problèmes liés à,
l'indivision.
Voilà.
C'est un type de SCI. C'est quand même une SCI, mais d'attribution.
C'est quoi les problèmes liés à l'indivision, si vous savez.
Dans le cadre de votre projet.
Je crois que c'était juste s'il y avait eu, au cours du projet, un divorce, un décès, après, par rapport...
C'est plus compliqué
juridiquement. Le notaire nous avait conseillé ça. Et puis, pour arriver à la copropriété aussi,
Parce qu'effectivement, l'indivision, c'est aussi un problème par rapport à l'habitat, surtout à l'habitat ancien, parce que dans les logements vacants, là, les, je ne sais plus combien j'ai dit, 10% ou 8%, y a aussi des logements qui sont vacants à cause de problèmes d'indivision. Et ici, c'est vrai qu'on
en a plein.
À Florac, par exemple, on voit plein de maisons qui tombent en ruine. Parce que les héritiers n'arrivent pas à se mettre d'accord, parce qu'il faut rechercher tous les héritiers, voilà. Donc, d'accord. Donc, mais vous, c'était plus au cas où il y aurait eu un événement non prévu pendant la période de travaux, on va dire. Avant. Ouais. Oui.
Mais
avant.
On est là pour
voilà, vous avez résisté, bravo.
Ça a marché. Bravo. Et ça a été attribué, donc c'est une bonne chose.
Ça y est,
vous n'avez pas divorcé, vous n'êtes pas engueulé avec
Hélène et Armel.
Non, on s'est même fait la remarque que le fait d'être à plusieurs pour construire, d'un point de vue conflit intrafamiliaux, c'était plutôt chouette parce que ça professionnalisait un peu le truc, quoi. On avait des réunions de chantier, donc c'était pas comme ça à discuter autour de la table. Il faut qu'on parle de tel truc, c'est la galère pour le chantier, tout ça. On en parlera à la réunion vendredi soir.
Si tu fais la vaisselle, je veux bien qu'on réduise de 10 mètres carrés la surface du salon. On a évité ça.
D'accord.
Et pas de conflit.
Moins de conflits.
Ouais. Parce que construire une maison, ça fait des conflits.
Ouais.
Et là, quelle est l'importance de votre maison à la... Parce que du coup, il y a des espaces communs. Et ça représente quoi un peu en surface et à peu près
Je crois qu'on a chacun des habitations qui doivent faire 120 mètres carrés d'un côté, 160 de l'autre. Et l'espace commun fait 60 mètres carrés de mémoire. Avec les deux caves, le couloir central avec les machines à laver et la chambre d'amis qui doit faire une grosse dizaine de mètres carrés. Donc tout ce projet faisait de toute façon une surface suffisante pour faire appel à un architecte. Mais on a aussi été bien content.
C'est 170, c'est ça.
Voilà. Ouais, c'est ça.
On a bien aussi été content de l'accompagnement et de...
Après, l'architecte, c'était juste pour les plans jusqu'au dépôt du permis. Après, on a suivi le chantier et géré les différents artisans et fait une partie en autoconstruction.
Vous ne l'avez pas pris comme maître d'œuvre, l'architecte.
Non, voilà, c'est ça.
Non, mais c'est vrai que déjà, la partie dépôt de permis et tout, bon, les dossiers, c'est quand même pas évident.
Pour ce type de projet, il faut les avoir.
Oui.
On va faire une petite pause musicale avant de reprendre les discussions. On va écouter Matmata.
Si tu cherches un peu de gaieté, viens donc faire un tour à l'ambé. Si aux examens tu t'es planté, viens donc faire un tour à l'ambé.
Si aux examens tu t'es planté, viens donc faire un tour à l'ambé.
Si t'as quelque chose à fêter, viens donc faire un tour à l'ambé.
Si t'as quelque chose à fêter, viens donc faire un tour à l'ambé.
Y a du chouchène à volonté, viens donc faire un tour à l'ambé.
Y a du chouchène à volonté, viens donc faire un tour à l'ambé.
Pour squatter, viens donc faire un tour à l'ambé.
Si t'as rien trouvé pour squatter, viens donc faire un tour à l'ambé.
Si ton mec vient viens donc faire un tour à l'ambé.
Je te mets bien de te plaquer, viens donc faire un tour à l'ambé.
Si du bouquin tu veux jeter, viens donc faire un tour à l'ambé.
Si du bouquin tu veux jeter, viens donc faire un tour à l'ambé.
C'est pour Mélo, y a plus d'entrée, viens donc faire un tour à l'ambé.
C'est pour Mélo, y a plus d'entrée, viens donc faire un tour à l'ambé.
Vous êtes toujours sur Radio Bartas et vous écoutez 1, 2, 3 Climat. Nous continuons notre émission sur l'habiter autrement et on va écouter un enregistrement sur les filles de nos invités qui ne pouvaient pas être là puisqu'il y a le lycée, sur comment elles vivent cette façon d'habiter et ce bâtiment, cette maison.
Je suis avec les trois enfants de la famille Ergot. Il y a Siloé qui a 17 ans,
Adèle qui a 15 ans.
Timothée qui a 8 ans.
Bien le bonjour à vous. Donc l'idée c'est un peu de parler de l'expérience de cette maison un peu partagée qu'ont fait vos parents.
Ouais.
Et vous êtes dedans depuis quand ?
On est dedans depuis 2014.
Ouais. Et du coup vous avez vécu le projet, vous toutes les deux, depuis le début ?
Depuis le début.
Un peu. Vous avez contribué au projet ou pas ? Subi.
Pas subi, mais on était assez petites donc. Pas assez grande pour aider dans la construction, etc. Mais on était dedans, on vivait les réunions de chantier qui se faisaient avec Hélène et Armel et les parents.
Hélène et Armel qui sont du coup...
Qui sont les voisines d'à côté, en copropriété du coup avec nous.
Et vous l'avez vécu comment ? Le projet ou le principe de s'installer en copropriété ?
Bien. Je me rappelle de beaucoup de week-ends où on restait à la maison parce qu'on habitait en bas, du coup on avait une petite maison avec un jardin et on restait toutes les deux, on avait le talkie-walkie et il y avait les parents là-haut qui faisaient le chantier et du coup on les appelait et puis on restait toutes les deux, des fois il y avait des gens qui nous gardaient et puis ça a duré longtemps comme ça, ils ont construit, on voyait souvent les Armel pour les réunions et puis après on s'est installé donc c'était chouette, on avait enfin notre chambre chacune et voilà.
Parce que c'était pas le cas avant.
On dormait ensemble, ouais. On avait une, enfin on aurait pu dormir séparément.
Si, on dormait séparément avant aussi, mais...
Il y avait une...
C'est plus le côté, voilà, avoir la maison construite à nous, enfin voilà, un vrai projet, et on l'a plutôt bien vécu. Enfin, moi, j'ai... C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois pas trop d'inconvénients, je trouve que c'est plutôt positif, et puis aussi sympa de faire visiter quand il y a des copines, des copains qui viennent, et de montrer le projet. Moi, je suis plutôt fière de ce qu'ils ont fait, je trouve ça plutôt bien.
Pas d'inconvénient du coup de l'installation copropriété parce que du coup c'est deux maisons collées avec une pièce commune ou
avec,
plusieurs.
On a un espace en fait au milieu avec une chambre d'amis qu'on se partage à la demande de voilà si nous on a besoin ou elles ont besoin et elles ont un atelier, nous on a une cave et puis nos deux machines à laver. Donc c'est l'espace voilà, commun avec aussi les chauffe-eau, etc. qui sont posés là. Donc on n'est pas collé directement, ce qui fait que phoniquement on se gêne pas du tout. Et puis ouais, elles sont vraiment tournées par de ce côté-là, nous vraiment de ce côté-là. Donc on se gêne pas du tout. Et puis ouais, il n'y a pas d'inconvénient au niveau phonique. Et puis c'est que des avantages sur le côté un peu entraide d'avoir des voisins, mais plus des voisines encore plus proches que si on était vraiment sur deux terrains séparés, parce que là on se rend des services si on a besoin, je sais pas, d'un œuf parce qu'on fait un gâteau qui nous manque, ou des trucs comme ça qui sont plus naturels et qui font que du coup on est encore plus proches que si on avait nos deux maisons individuelles séparées à côté, quoi.
Parce que vous passez devant chez elle toujours, par
oui,
contre.
Ça, oui,
ça a été...
C'était un choix, et elle, ça ne les dérangeait pas au niveau du... Quand ils ont fait les plans, elle, je crois que ça ne les dérangeait pas d'être de ce côté-là, côté entrée où on monte au niveau de l'accès.
Et ça fait un peu vide appartement, du coup. J'ai besoin d'un neuf, c'est les voisins sans changer de propriété, quoi.
Ouais, et puis c'est aussi des... Si elles ont besoin, des fois, elles sont au travail, qu'il y a les chiens, enfin, la chienne qui est là-bas, qui a besoin d'aller la voir ou quoi, nous, voilà, c'est arrivé qu'elles nous appellent, on peut aller passer.
Ah, elles ont une chienne.
Elles ont une chienne et trois chats.
Ah, ça fait deux mandats.
Voilà. Et c'est un avantage aussi, des fois. Moi, c'est vrai que c'est des avantages. Enfin, nous, on aime bien, parce que du coup, ça fait des animaux en plus aussi.
Et parce que vous n'en avez pas.
Nous, on n'en a pas, donc ça fait.
Il n'y a que les animaux des voisines.
Ouais. On a tous les avantages sans avoir les inconvénients.
C'est pas si mal. Et pas d'inconvénients, du coup, vous ne voyez pas de défaut à ce type de
partage ? Moi, j'en vois pas. Moi, j'en vois pas. T'en vois, toi ?
Non.
Non, parfait. Ben, merci.
Avec plaisir.
Et on reprend après cet enregistrement d'expérience. Maintenant, c'est un peu aux parents de nous dire, eux, comment ils le vivent. Elles ont l'air très contentes. Elles voulaient que ça dure plus longtemps, mais...
Moi, j'ai bien aimé les animaux par procuration, du coup.
C'est pratique,
pas, comme dit Pierre, t'as pas les frais de veto, c'est les voisines qui payent. Ah ben, t'as juste les caresses balades, à donner au chat, les balades avec le chien. C'est pas mal. Je dois dire que
tout le monde est fan.
Ouais. Ouais.
Pendant le confinement, ça a été même
important.
Très salutaire au niveau psychologique pour les,
pour les petits. Pour le petit dernier, ouais.
aussi, qui pouvaient sortir, profiter du chien.
C'est vrai que le confinement, ça a été un moment qui nous a vraiment rapprochés, parce que voilà, comme plein de monde, on était chez nous, et avec la chance d'habiter en Lozère et d'avoir l'espace autour. Hein.
Pas dans 40 mètres carrés à
3. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que y a eu des choses qu'on n'aurait jamais faites sinon, quoi. On a fait une espèce de salle de sport sur le toit terrasse où on se retrouvait après les journées de télétravail et avec les filles qui avaient un petit programme de sport du collège et puis les voisines. Enfin, on avait mis, c'était génial. Voilà. Puis Sweet, la chienne donc des voisines, elle faisait babysitter, parce que clairement Timothée il avait 4 ans et nous on avait pas mal de trucs en télétravail, on s'occupait de nos étudiants à distance et tout ça. Donc on savait que il était dehors avec avec
qu'il
Sweet.
Avait pas de problème.
C'était chouette.
Ouais. Puis ça a été aussi, j'y pense maintenant aussi. Ça déborde la copropriété, mais on a des aménagements à penser avec les voisins. Et dessous, le confinement, ça a été aussi la construction des murs qui nous permettaient de limiter les bords de l'accès. Et on a été livré effectivement des pierres, du sable au tout dernier moment. Et on a pu mener ce chantier avec en dessous Jeannot. Il reste encore des aménagements extérieurs. Mais j'ai l'impression qu'on a la chance d'avoir les voisines qu'on a quelque part un peu choisies, mais aussi les voisins autour dans le quartier avec qui on a des relations super, quoi.
Ouais.
Je fais pas forcément de lien entre le fait de se dire, ah tiens, il y a des gens qui sont venus là et qui ont essayé d'habiter ensemble, et le fait que dans le quartier ça a pu influer sur nos relations avec les autres, mais peut-être qu'il y en a, on se dit peut-être que c'est des gens qui savent...
En tout cas, ils ont une piscine en dessous et souvent ils nous la prêtent et c'est hyper sympa. Ils sont pas dans la copropriété, mais parfois c'est vrai qu'on n'a pas mis les murs dont on parle. C'est vraiment des murets. C'est pas des murs de séparation.
Vous
n'êtes
pas enfermés.
Non, on n'a pas de portail.
Pour tenir les talus.
Il n'y a pas de portail. C'est plutôt Donc c'est vrai que c'est chouette cette ambiance de voisinage, on mesure la chance qu'on a quoi.
Parce qu'au départ on a commencé par leur mettre derrière leur maison un enrangement de 3 mètres et une habitation
juste
voilà,
derrière chez eux quoi,
qui leur privait d'une grande partie de la vue qu'ils avaient sur la, je sais pas comme ça, la couronne de Chaumette là. Donc voilà.
Ouais, c'est
ça leur fait un mur d'escalade gratos quand même, ouais,
c'est ce qu'il faut voir. Il n'est pas super hein, comme escalade. Ouais. Comme escalade. Bon, mais si, pour Timothée peut-être.
Non, mais aujourd'hui il y a de la vigne qui grimpe, ouais. Ça sert à adosser les panneaux solaires, des voisins de dessous. Enfin voilà, d'un inconvénient, ils ont l'intelligence de réussir à en avoir fait un avantage, ou au moins composer avec.
Du coup, ça marche bien. Pas de
ben ouais, aussi bien Philippe le montage. Me demandait si on avait un planning pour la chambre d'amis. Oui, on a un planning. Alors c'est vrai qu'il est un peu déséquilibré, mais c'est plutôt nous qui l'utilisons un peu plus. Mais voilà, ça se passe super bien. Et alors ça, on l'a peut-être pas dit, mais à la base, Hélène, c'était une collègue à moi. C'était pas des amis proches avec qui on s'est dit on a trop envie d'habiter ensemble. C'était pas ça quoi. On est parti sur vraiment l'idée d'un projet, d'habitation pour par rapport à nos valeurs en termes de construction aussi, des maisons bois avec des matériaux, on a essayé de réfléchir les matériaux qu'on a utilisés, etc., et les méthodes de construction mais c'est, voilà, je pense que c'était plus sur les valeurs de comment on voulait habiter que sur l'amitié à la base, et c'est finalement là, après que c'est devenu des amis. Oui.
Et par exemple, bon, on imagine le pire, Hélène et Armel s'en vont parce que, bon voilà. Vous imaginez vivre avec du coup d'autres personnes? Est-ce que la façon dont vous avez organisé les choses, est-ce que ça se prêterait à même avec un peu des inconnus en fait?
Oui,
franchement. En tout cas au départ.
Ouais, la façon dont c'est fait et puis on a un règlement de copropriété.
Ah oui, il y a quand même quelque
qui,
chose
d'écrit. Qui du coup
ne
nous sert pas à grand chose au quotidien, mais qui pose les choses avec les espaces privatifs et les espaces communs. Et puis on avait discuté aussi de la façon dont ça pourrait, si jamais une des deux familles s'en va, on s'était dit que ça pouvait, enfin le fait que ça soit un habitat comme ça, une copropriété, ça mettait un espèce de critère. De forcément les gens qui viennent, c'est pas des gens qui veulent un pavillon avec une clôture autour quoi.
Certains vont rigoler comme le premier notaire et partir en courant.
Ouais.
Et d'autres, on l'espère, adhéreront au l'esprit projet, du projet.
Voilà, il faut, forcément, ça, c'est un élément déjà dans l'ambiance du projet. Quoi.
Voilà.
La surface qui n'est pas bâtie, donc le jardin, est-ce qu'elle est en copropriété aussi ou bien est-ce que c'est privatif?
Il y a des parties.
Un peu les deux. Les accès sont restés dans la copropriété. Et après, dans le règlement, on a chacun, je crois, c'est 250 mètres carrés de surface qu'on appelle avec des jouissances privatives. C'est-à-dire que même si on trouve que le barbecue des voisins est mieux, on n'a pas le droit
d'aller l'utiliser,
enfin au moins sans leur autorisation, ou d'aller bêcher ou semer de l'autre côté.
Transition, tu trouvais quid d'un potager commun, etc. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que vous
les outils, pour le jardin. Voilà,
comment ça se passe?
On a des outils partagés. Par exemple, la débroussailleuse, on l'a achetée à plusieurs.
En commun, ouais.
Après, il y a beaucoup. Hélène a beaucoup d'outils. Elle est passionnée. Elle fait de la menuiserie et tout ça. Et donc, il y a beaucoup d'outils qu'Hélène a et que nous on n'a pas. Mais on partage aussi, je ne sais pas, l'appareil à fondu et la friteuse avec une seule cuillère d'huile. Là, que Hélène et Armel, elles ont ça. Nous, on a l'appareil à fondu la raclette plutôt. Enfin bref, il y a des trucs comme ça qu'on met au milieu dans les parties communes et qu'on peut utiliser.
Ça échange.
Moi, je parle surtout de potager.
Ah oui, alors le potager.
Voilà, est-ce que vous avez envie d'avoir votre potager? Vous avez chacun les vôtres ou est-ce que vous aimez, en fait, au final, cultiver ensemble en fait.
Ben alors, je crois qu'on partage en tout cas avec Hélène et Armel ce goût pour le jardinage et voilà, de cultiver. Alors nous, on avait déjà un jardin avant d'habiter là, on n'était pas propriétaire, mais on cultivait déjà un bout de terrain au bord du Tarn, donc on l'a gardé et ça reste toujours notre jardin potager. Hélène et Armel, elles cultivaient aussi un petit bout de jardin qui était attenant à leur précédent logement. Donc on savait voilà, qu'elles aimaient ça. Et là, elles se sont construites des bacs de culture à côté de leur habitation. Mais voilà, c'est leur jardin. C'est voilà. leur Moi, jardin. Je descends au bord Vous du Tarn, cultivé. Ouais. Par contre, ouais. on s'échange des trucs, plantes. Des graines.
Ouais, oui, bah oui, ça,
on
c'est...
arrose. Voilà.
Ouais. C'est ce que disaient vos filles tout à l'heure, c'est que finalement, on a besoin de sel, on vient chez vous. Voilà. Si vous avez ouais. besoin de poireaux, vous irez chez elles et voilà, en fait.
Oui.
Oui, oui, oui.
Et à l'inverse.
Et on peut, si besoin, aider à leur arrosage, si elles ne sont pas là.
Ouais.
Comme nous aussi, on peut leur demander un service. Est-ce qu'on est sûr qu'on a éteint le four ou... voilà, on part des fois avec un petit doute de chez soi. Et bien là, c'est très facile. Avec un petit texto, on va avoir quelqu'un qui pourra aller vérifier quelque chose.
On a des amis qui vont créer quelque chose à Espagnac, normalement. Voilà. Quel conseil vous donnez pour créer ce genre d'aventure? Quel conseil vous diriez? Ben voilà. Voulez-vous lancer dans cette aventure d'habitat partagé Donc, conseils à donner et choses à ne pas faire.
Les choses, oui, les trucs qui pour vous n'ont pas marché, ou vous êtes trompé, et a posteriori, on ferait peut-être différemment.
Ou tout est nickel. Je ne sais pas, conseil à donner, moi je dirais de parler, quoi, de dire les choses, d'essayer de toujours trouver des solutions en discutant, en se mettant autour de la table. Après, nous, franchement, jusqu'à maintenant... Il n'y a pas eu de conflit, quoi. On a toujours discuté et... Ouais.
N'allez pas chez le notaire dont on ne connaît pas le nom.
Et au niveau de la dimension, parce que là, vous êtes deux ménages, on va dire, deux foyers. Et est-ce que pour vous, ça serait jouable s'il y en avait quatre ou six? Enfin bref, est-ce que vous voyez une limite à ça, au partage
De la machine à laver machines à laver.
Quand il y avait la c'est chronique sur les maisons individuelles, je me suis dit, en fait, quand même, on est quand même sur le modèle de la maison individuelle. On n'est pas sur un habitat, un habitat groupé à fond, quoi. Après, c'est vrai qu'on l'oublie. Moi, j'oublie qu'on habite en copropriété et tout ça. J'ai plus l'impression que si on me demande, j'habite, on a notre maison, quoi. Et c'est quand on a des amis qui viennent, ou quand on explique le truc et que les gens nous disent « Ah, mais c'est génial, mais quand même, vous avez fait ça. » Et c'est vrai que moi, j'ai pas l'impression que ça soit une contrainte et que ça soit, ou même que ça soit un truc hyper extraordinaire, quoi, d'avoir une chambre d'amis en commun et quelques trucs partagés, quoi.
Ça après, paraît pas extraordinaire, mais c'est rare.
Oui, en fait, finalement, c'est rare.
C'est extrêmement rare. On est d'accord que ça reste le principe de la maison individuelle, vous l'avez imaginé, mais c'est extrêmement rare de se rendre qu'on peut partager des choses au quotidien dans notre habitat. Et on le voit. Tout le monde a sa débroussailleuse, tout le monde a sa tondeuse, tout le monde a son machin. On a des.
Mais oui, même si en milieu rural.
Et chacun a sa voiture.
Oui. On y voilà. réfléchit parce que ça nous est arrivé pendant un mois d'avoir une voiture en panne et l'année dernière et on a fait finalement à trois voitures au lieu de quatre, quoi.
Et ça a
fonctionné à peu près. C'est vrai que ça nécessitait un peu de se coordonner, mais du coup on l'a un peu en tête. On se dit que si jamais c'est possible, quoi. Après, les trucs à partager, le projet qu'on avait, c'était un poulailler. Alors, c'est pas encore abouti, mais on aimerait avoir un poulailler partagé. On en avait un, nous, avant, et voilà.
Oui, en tout cas, ça ouvre les possibles à plusieurs choses, quoi. Hein, comme tu dis, là, effectivement, ça permet de réfléchir, la voiture.
Je vais balancer un dossier, c'est que la chaîne des voisines a eu une période dans sa jeunesse un peu fougueuse et elle aimait bien sauter et manger, peut-être pas les manger en tout cas,
s'amuser
avec des poules.
Ah. Donc ça a freiné un
Donc,
peu le projet
c'est pour ça
de poulailler.
Que vous n'avez pas de poules déjà.
C'est peut-être un exemple, on va dire, mais on remet le curseur un peu plus bas sur notre projet poulailler en se disant, bon, ça arrivera qu'ensuite, puisque c'est son nom,
sera plus vieille.
Sera un peu plus vieille. Je pense qu'elle n'est pas loin d'être en capacité d'intégrer dans notre copropriété quelques volatiles.
Copines. Quelques copines. Oh, elles sont chouettes, ces copines.
Donc ça marche, quoi.
Et Hélène, elle planche sur un projet de... Parce que ça, on en avait parlé dès le début. Moi, j'ai fait quelques séjours en Finlande et j'aime bien les saunas traditionnels au bois, quoi. Et du coup, Hélène, elle planche sur un projet aussi de peut-être de sauna partagée. Au tout début, on en avait parlé. Puis en fait, on ne l'a pas mis dans le projet initial parce que voilà, il y avait tellement d'autres choses à penser. Mais là, c'est pourquoi pas en extérieur, faire un petit truc... Donc voilà, il y a des idées maintenant.
Oui, il y a des idées. Voilà.
Après, il faut le bien. Temps pour...
Il y a aussi une fête importante pour nous, c'est la Saint-Nicolas.
Ah oui, c'est vrai.
Puisqu'étant originaire, comme Hélène et aussi Armel, du Nord-Est, c'est des régions où c'est même des fois plus important que Noël. Peut-être un peu, mais pour certaines personnes, c'est le cas. Et donc, depuis le début, on a cette date-là, début décembre, le 6 de mémoire,
oui, c'est
qui est la Saint-Nicolas.
Peut-être.
Et que l'on
peut-être.
Fête. Ah. Vous vérifiez.
Tu sais que tu fais la fête, mais tu ne sais pas quand.
Non, c'est une journée, du coup, c'est une émission autour des dates, le 29 février, le probable 6 décembre.
Oui, ouais.
Et on se retrouve autour d'un goûter. Elle gâte même des fois nos enfants avec un petit cadeau surprise, même à chaque fois.
Ouais.
Et donc, on ne fait pas notre assemblée générale officielle de la copropriété, mais on se retrouve au moins une fois par an. Pour ce temps-là de partage. Je pense que c'est effectivement quelque chose d'important de savoir prendre le temps de discuter et mettre toujours l'enjeu de vivre ensemble au-delà de peut-être nos souhaits personnels ou propres à chaque famille.
Ouais. C'est moi ce que je comprends un peu. Ouais. C'est plus que habiter ensemble, c'est vraiment vivre ensemble, quoi. Vivre avec d'autres personnes... en bonne entente, on va dire.
Mais justement, est-ce que ce serait possible à Florac, en fait ? Parce que là, on parle d'Hispaniac. Je pense à mes amis qui ont la même envie que vous sur cet habitat partagé à Hispaniac. Est-ce que c'est possible à Florac, puisque...
C'est le terrain.
C'est le terrain.
Il faut trouver le terrain.
Ça peut se faire aussi dans un immeuble. Mmh. C'est comme une copropriété. Hein. C'est plus que c'est une copropriété choisie. Quand tu vas acheter un appart, tu ne choisis pas tes voisins du dessus, tes voisins du dessous. Ben là, ça pourrait être ça, l'idée d'acheter à plusieurs un immeuble et de choisir, entre guillemets, choisir, d'avoir le projet.
Dans cet immeuble, il y a des espaces en commun et des espaces privatifs. Oui.
Mais dans notre émission, la dernière émission, on avait un invité qui nous avait parlé de ça. En fait, ils ont sont en train de construire une foncière une solidaire de logement où le projet, c'est d'acheter des bâtiments à rénover et ensuite de les mettre en location longue durée avec des bails emphytéotiques de telle manière à ce qu'en fait, on s'exonère de la question de la propriété.
Donc, il faut trouver le terrain, l'immeuble, le bâti qui permette de le faire. Et c'est
et peut-être aussi les gens
et les gens avec qui ont envie de le faire.
C'est après il peut y avoir une volonté politique, je dirais, de faire de l'hébergement comme ça et du coup tu te retrouves avec des gens que tu connais pas forcément, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et après ça peut être avec des gens que tu aimes bien et avec ce qui est votre cas là et voilà, avec qui on développe un projet comme le vôtre.
Et puis je dirais aussi que du fait d'avoir vécu la construction administrative au départ, la phase de chantier, je pense que ça nous a aidé vraiment à bien nous connaître, quoi.
Oui.
Savoir aller puiser dans nos ressources physiquement, psychologiquement, dans la phase de chantier. Et donc ça s'est bien passé, et donc on sait qu'on a cette capacité-là.
Merci.
Eh bien, c'est bien super.
On va passer rapidement à la... deuxième chronique.
Ah, la deuxième. Alors, moi je vais.
Oui, c'est à froid, je suis désolé, on a sauté un morceau.
Le temps passe, c'est ça.
C'est que le temps passe.
D'accord.
Mais t'es pas pressé.
Oui. Non, alors moi je voulais, pour un peu finir cette émission, vous parler des mini-maisons, des petites maisons, parce que puisqu'on a parlé de surface habitable et tout ça. Alors voilà, la plus connue des mini-maisons. Alors, c'est tout le monde sait ce que c'est, hein, c'est ce qu'on appelle la tiny house, voilà. Alors, ça nous vient des États-Unis, donc forcément, ça doit être génial. C'est une petite maison qui fait une surface, on va dire, entre 6 et 20 mètres carrés. Ce sont des maisons mobiles Alors, au départ, c'était de l'habitat d'urgence suite à l'ouragan Katrina. Et puis, aussi aux États-Unis, il y a aussi des difficultés pour se loger. Donc, ça a continué à se développer. Et puis, ça a été encore augmenté par la crise financière de 2008. Voilà. Alors, c'est un hébergement mobile, hein. C'est plutôt bon marché, entre 30 000 et 70 000 euros. Et c'est la plupart du temps, surtout en bois, avec des matériaux plutôt écologiques. Il y a, alors, ça vient des États-Unis, mais ça se développe pas mal en Europe et en France. Et quand on traîne un peu sur le net, on trouve de plus en plus de constructeurs, en fait, qui proposent ça. Alors, alors, en plus, il y a des trucs qui sont... certains architectes se sont emparés des trucs et font des objets très designés. Donc, voilà... Après, ça reste quand même une grosse remorque. Hein. C'est pas un truc qu'on traîne derrière sa voiture, on s'arrête le soir avec. Donc c'est plutôt de l'hébergement, on va dire, ponctuel, en fonction des besoins et pas des envies. On peut pas se permettre d'aller une semaine là. En plus, bon, il y a d'autres problèmes. Hein. On peut pas mettre des tiny houses dans toute la nature. Et en plus, la réglementation en France oblige à bouger sa caravane ou son mobil-home ou sa tiny house tous les 6 mois. On peut pas rester plus de 6 mois au même endroit.
Sinon, donc, on considère que c'est un habitat permanent.
Voilà, ça peut pas être c'est pas un habitat permanent. Voilà, certaines fois, c'est utilisé justement, comme je disais tout à l'heure, en habitat d'urgence, ça peut avoir cette fonction-là. Alors après, une déclinaison de la tiny house, c'est tout simplement la mini-maison, c'est-à-dire c'est un peu la même chose, de 10 à 20 mètres carrés, mais c'est pas mobile. Hein. Donc là, par contre, moins de 20 mètres carrés, il faut une autorisation de travaux, donc c'est pas quelque chose qu'on peut mettre n'importe où non plus. Hein. Il faut que le terrain soit prévu dans le PLU, que ce soit un terrain avec un certificat d'urbanisme. L'avantage de ces mini-maisons, c'est que c'est quand même pas très cher, en fait. Hein. Si, pour se faire une mini-maison de 15-20 mètres carrés, alors avec tout dedans, hein, enfin, voilà, cuisine, etc., il y a beaucoup de plans, en fait, qui traînent aussi sur Internet. Il faut compter à peu près 20 000 euros de matériaux. Il y a aussi des constructeurs. Il y a des constructeurs qui proposent des mini-maisons, toutes posées, clés en main, à entre 40 000 et ça peut aller jusqu'à 65 000, suivant le niveau de confort et tout ça. Donc c'est vrai que... Alors ça, c'est évidemment un hors prix de terrain. Ça ne fait pas quand même des maisons très très chères. Non, après, elles ne sont pas grandes non plus.
Mini-maison à 60 000.
Hein ?
Ça fait un peu cher, les plus chers, mais...
Oui, pour mais tu vois, ça commence... Voilà, 65 000, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu designé avec des classe. Styles... Voilà. Mais une mini-maison de 20 mètres carrés pour 40 000 euros, c'est pas... Enfin, ça rend, la maison un peu plus accessible. Ouais. Alors, bon, juste pour un peu clôturer ça, la maison conteneur. Alors ça... C'est aussi... donc, il y a même des constructeurs maintenant qui commencent carrément à apparaître. Hein. On vous propose une maison dans un conteneur métallique. Alors, avec du bardage extérieur, des trucs à l'intérieur. Ça se fait beaucoup en autoconstruction, mais ça commence vraiment. Il y a même des gens maintenant qui achètent des maisons, des grandes maisons, hein, 100 mètres carrés, 120 mètres carrés.
Ouais, c'est plusieurs conteneurs.
Voilà, les uns sur les autres ou disposés différemment. Alors j'ai trouvé un peu des prix. Un conteneur neuf, donc ça vaut 2000 euros. Alors il y a que c'est de la tôle, hein, attention. Hein. Il faut le faire livrer aussi, donc il y a des coûts qui se rajoutent. C'est quand même 6 mètres par 2,40 mètres, c'est le conteneur de base, je crois. Et puis 3500 euros pour un conteneur de 12 mètres de longueur. Donc si on en colle un de 6 mètres, un de 12 mètres, voilà. Bon, après, il faut faire les fenêtres, les portes. C'est pour ça, je pense qu'en autoconstruction, c'est vraiment... Enfin, il y a pas mal de gens qui se lancent dans l'autoconstruction conteneur, en fait.
Et j'ai un pote qui a monté son studio d'enregistrement mode... Il a mis 3 conteneurs.
Oui.
Et vraiment, bon, après, ça a été un investissement, mais vraiment, ça lui a coûté 7000 euros pour les 3 conteneurs. Et après, il a dû imbriquer, etc.
Mais il habite dedans.
Non, il habite pas. Ah non, il a fait un studio, studio d'enregistrement. Mais par contre, il a fait un truc de dingue. Et
oui.
Il a dit, si j'avais dû investir dans autre chose que ça, en fait, ça a été génial.
Oui, ça lui aurait coûté beaucoup plus cher.
En fait, il est à 25 000 euros en tout. Avec l'isolation du truc. Enfin, c'est vrai que c'est une belle idée.
Surtout que des conteneurs, là, j'ai parlé des prix neufs, mais on en trouve aussi d'occasion. Donc, peut-être que ton collègue, il en a acheté d'occasion. Voilà. Donc, bon, après, ben oui, il faut quand même mettre du bardage. Enfin, voilà, il faut
apprendre à faire. La découpe du métal.
Oui. Et alors, juste un dernier truc. On fait maintenant des maisons en carton. Eh oui. Qui l'eût cru, en carton donc recyclé. Il y a une entreprise, ça nous vient des Pays-Bas, une entreprise qui s'appelle Wickel House, qui existe depuis plusieurs années. Alors, bon, c'est vrai que c'est un peu loin, c'est en Hollande, il faut faire livrer tout ça. Mais le truc, c'est qu'en fait, ils ont conçu une maison en carton, c'est comme des tranches, en fait, qui font 5 mètres carrés. Donc, elles font 4,50 m de large. La tranche fait 1,20 m de large. Je sais pas comment dire. En longueur, 4,50 m et en hauteur, 3,50 m. Et après, on les colle les unes aux autres. Il n'y a pas de face, en fait. Et on les colle les unes aux autres, ce qui fait qu'on peut avoir une maison soit de 2,40 m, soit de 3,60 m, soit de... On peut rajouter t'achètes les trucs. Ça se pose sur une petite structure au sol. Et puis après, tu peux avoir une salle de bain, puisqu'il y a un segment là qui est spécial sac de bain, salle de bain avec les entrées, les sorties pour l'eau, etc. Voilà, alors le segment quand même il coûte 10 000 euros. Donc pour avoir une maison, on va dire, de 6 mètres de long, il faut quand même déjà mettre 60 000 euros. Mais voilà, c'était plus pour illustrer le fait que les choses bougent aussi. Une maison en carton, il y a aussi le carton qui est utilisé dans les matériaux de fabrication. On n'en a pas parlé à notre dernière émission, mais voilà, j'ai trouvé ça aussi. Mais là, il faut une ossature et tout ça. Voilà, et ce fabricant, quand même, parce que moi j'étais étonné du carton, tu te dis, il pleut, ça va se ramollir, et ta maison va se retrouver toute... Non, ça fonctionne bien. Il y en a déjà pas mal en Hollande et ils la garantissent pour plus de 50 ans de durée de vie. Voilà.
1, 2, 3, climat.
Ouais, moi je suis tombé sur un truc pas mal aussi, qui est pas trop cher non plus d'ailleurs. C'est une combinaison assez surprenante entre la technologie un peu sophistiquée et des techniques ancestrales. Et il s'agit de maisons en terre crue qui sont construites avec une imprimante 3D. On sait que l'imprimante 3D est utilisée pas mal, notamment en Chine, pour construire des immeubles en béton. Mais là, c'est pour construire une maison en terre, donc avec un mélange... De terre qui est trouvée sur place, de paille de riz, de la chaux, c'est malaxé, et on balance ça dans l'imprimante 3D, entre guillemets, qui ressemble à une sorte de grand... C'est une grue qui arrive à doser exactement ce qu'il faut. Et le concept, c'est copié sur les nids de guêpes. En fait, on construit des alvéoles, et c'est la grue qui dépose le matériau automatiquement.
Ah oui, c'est-à-dire que les murs sont
Les murs sont montés sans main d'œuvre, en fait.
Plein d'alvéoles.
Ton ordinateur, tu pilotes ta grue et elle dépose le matériau pour construire des parois qui font à peu près 40 cm d'épaisseur. Et il y a au cœur du mur d'autres alvéoles dans lesquelles on met d'autres parties de l'écorce de riz. Quoi. Et tout ça fait un mur totalement efficace du point de vue thermique.
Au niveau thermique, oui.
Donc, pas besoin de chauffage, pas besoin de clim. Bien sûr, le truc avec une maison en terre crue, c'est qu'il faut qu'elle soit bien couverte. Donc, il y a une charpente en bois qui permet d'isoler de la pluie. Mais ce qui est assez intéressant avec cette histoire, c'est que donc, c'est une entreprise italienne qui a conçu ça. Il a conçu un prototype, ils ont vu que ça marchait bien, ça leur a coûté 1000 balles, je pense, à peu près, pour une maison de 20 mètres carrés.
Ouais, sans payer le prix de l'imprimante.
Mais il n'y a pas de main-d'œuvre, mais sans payer l'imprimante. Oui. En fait, maintenant, leur histoire, c'est qu'eux, ils vendent pas, ils construisent pas des maisons, mais ils vendent des kits, des kits de, pour construire sa propre maison avec son imprimante 3D. Bon, on pourra la mettre en commun si on veut. Et la terre, on la trouve sur place. Bon, il n'y a pas trop de problèmes. Ouais. La paille de riz, on la trouve en Camargue, c'est pas trop loin. Et donc, il y a des tutos qui permettent de construire le truc, de piloter son imprimante très facilement. Bon, en gros, on a conçu la maison open source.
Ouais. Parfait. On attend de voir la tête de l'imprimante 3D. Oui. Moi, je suis toujours curieux, hein, l'imprimante 3D, j'en ai jamais vu.
Et on lui fait une petite place à côté de l'appareil à la raclette.
Ouais.
Petite. Ou je crois qu'elle ne logera pas chez vous, l'imprimante 3D.
Il y en a une à la pompe. Hein.
L'imprimante 3D. Oui. Ouais. Ah, faut que j'aille voir parce que j'en ai jamais vu.
Ah, ils seront un plaisir de t'accueillir.
Celle de la pompe, la maison sera toute petite. Hein.
C'est une maison de poupée même. Oui.
Il suffit d'avoir une bonne grue sur laquelle on branche sur l'ordi. C'est oui. Bon.
On essayera. Eh bien, merci à toutes tous pour cette émission. On a un peu débordé sur le temps. Mais il n'y a pas de souci. On ne peut pas vous annoncer le sujet de la prochaine parce qu'on ne le connaît pas encore. On va le discuter après. Ouais. Donc ce sera la surprise. Je n'ai pas non plus les dates de rediffusion. Je vais me faire engueuler. Mais je vais...
Absolument pas parce que je ne les ai pas non plus. Donc, c'est pas le voilà, genre de bartage d'engueuler les gens. Hein.
C'est rediffusé au moins 3 fois dans le mois, ouais, si je me souviens bien.
Dimanche en 8.
Dimanche en 8.
Voilà, commande des chaînes.
Et on se quitte sur une chanson qu'on n'a pas pu passer pendant l'émission parce que Ben a tout fait pour qu'on la passe pas, de Cinz Emilia.
Et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde.
Je précise que tout ça était très voulu de faire un petit blanc. J'adore Cinz Emilia, mais c'est que ça va vous rester dans la tête. On vous embrasse, vive 1-2-3 climat.
Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir. Puisqu'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qui brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout. Sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main, que votre